Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, Francis Cassie.
Et c'est le moment pour nous de vous présenter ce bulletin. Madame, Monsieur, bonjour à la une de l'actualité. Agame Village, quartier de la commune d'Agame, sur le pied de guerre face à son déguerpissement. Insertion professionnelle, près de 200 jeunes auparavant sans emploi ou mal insérés, désormais aptes au métier du bâtiment et des travaux publics. Guerre Israël-Hamas, espoir de cesser le feu à Gaza avec la visite du Premier ministre israélien en ce moment aux États-Unis. Et puis, vers la fin de ce bulletin, l'invité de la rédaction, le président de la CIED, entendre par là la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Il se soucie de la participation des personnes vulnérables aux élections. Blépierre Norlandais répondra à cet effet aux questions de Junior Cardin. Quartier d'Agame Village dans la commune d'Agame. Des troubles entre forces de l'ordre et population déclatés hier matin. En effet, les habitants se sont fermement opposés à leur déguerpissement, réclamant un nouveau site de réaménagement. Mais l'opération s'y poursuit quand même, nous dit Christelle Youssou, qui y était.
À notre arrivée sur les lieux, régnait calme et silence. Au sol, on pouvait encore percevoir des débris de verre et de pierre témoignant de ce qui venait de se passer. Kenzo, membre d'une brigade spéciale de supervision des casses, nous explique les raisons de cet affrontement.
Si il y a des troubles aujourd'hui, c'est parce que la population a riposté, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu qu'on casse les maisons. Donc du coup, on était obligé d'employer la manière forte. Ils revendiquent, oh, ils n'ont pas raison, parce qu'on les a avisés. Aujourd'hui, ils indexent le gouvernement. Oh, le gouvernement même les a avisés, ils ont été dédommagés même avant tout ça.
Le problème semble être au niveau du nouveau site attribué aux populations, explique Kwasi Uriel, habitant du quartier.
C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a très longtemps, cette voie-là devait être agrandie en fait. Mais d'autres disent ont été dédommagés. On les a donné une autre place au niveau de deux plateaux. Mais le problème, c'est que les gens d'Adjamé disent deux plateaux là. Ce sont les parcelles en fait, ce sont les champs. Maintenant, quand on leur donne ce site-là, c'est pas normal. Puisque c'est pour eux déjà. Donc ils veulent qu'on leur donne un autre coin, ce qui n'a pas été fait. Donc ils veulent pas que dans leur village soit touché.
Autre raison du mécontentement des populations, le non-respect de la distance annoncée.
Tara et Brotier. Hier, il y avait une réunion à la chefferie du village. Le chef a dit que c'est 10 mètres suivants. Même. Ils ont débordé, ils ont cassé des maisons, des trucs qu'ils ne devaient pas casser. Et les jeunes du quartier sont sortis, appeler les autres frères, essayer de les arrêter, mais ils n'ont pas pu, puisqu'il y avait plus de renforts.
Malgré ces manifestations qui ont causé quelques blessés selon des témoins, les casses se poursuivent sous la surveillance des forces armées.
Le phénomène du changement climatique pose un défi agricole à la Côte d'Ivoire, surtout dans la cacaoculture. Pour le relever, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTIPARCES, entend financer l'Université d'Aloa pour des recherches visant des solutions. Ils ont à cet effet signé mardi dernier une convention, nous explique Paul Bénédicte Boulou.
Cet accord se traduira par la mise en place de programmes de financement spécifiques. Docteur Yaya Sangaré, secrétaire général du FONSTIPARCES.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dont l'économie repose sur l'agriculture, est confrontée à des défis majeurs face au changement climatique et aux enjeux d'une agriculture durable, écologiquement responsable et dont les produits, notamment le cacao, sont acceptés par nos partenaires économiques extérieurs. L'Université de Daloa, avec ses compétences en agroforesterie et le soutien du FONSTIPARCES, peut jouer un rôle important pour la formulation des solutions endogènes à ces défis et problèmes.
Pour la présidente de l'université Jean-Laurignon Guédé, ce partenariat aidera à asseoir les bases de leur ambition. Professeur Adoï Krou, Viviane.
Je m'honore aujourd'hui à formaliser ce cadre de coopération. Il s'agira de valoriser les résultats de recherche et d'apporter un appui non des moindres à la protection des recherches de UGLOG. Nous avons mis en place une équipe projet de veille, de suivi et de conseil pour accompagner les enseignants-chercheurs à capter les financements internationaux. Nous disposons d'outils pour être plus compétitifs sur le plan national et international afin de permettre à UGLOG d'avoir un impact perceptible dans la vie des communautés locales et celles de notre pays.
Notons que les deux personnalités ont paraphé les documents de cette convention, scellant ainsi leur partenariat pour les années à venir.
École de la deuxième chance. dans le cadre de ce programme pour résorber le stock de personnes sans emploi ou mal insérées. 169 jeunes formés au métier du bâtiment et des travaux publics ont reçu leur certificat de qualification professionnelle ce jeudi à Abidjan. C'était en présence des ministres Kofi Nguessan de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et Koné Bruno de la construction, de l'urbanisme et du logement. Compte rendu, Junior Cardin.
Ces 169 impétrants de la première promotion font la fierté de l'école de la deuxième chance. C'est un modèle de réussite du partenariat public-privé, au dire de Stéphane Afro, directeur général de Keidan Group.
La cérémonie qui nous réunit est l'heureuse conclusion de la vision de trois acteurs, l'État de Côte d'Ivoire, qui a soutenu de toute sa puissance depuis 2023 ce projet. Keidan Group, dans lequel est née cette idée de formation et de qualification des invisibles, les apprentis et leurs parents, qui ont eu confiance en un modèle inhabituel de formation sous nos horizons.
Les caractéristiques de cette formation qualifiante sont expliquées par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan.
À travers cette première expérience, les jeunes ont été formés au métier de maçon, de menuisier coffreur, de ferrailleur, de carreleur, de staffeur plaquiste, de peintre bâtiment, de ferronnier. La méthode proposée est l'apprentissage à travers le chantier école. Il s'agit pour les apprentis de suivre un minimum de cours théoriques et de passer ensuite l'essentiel du temps sur le chantier à l'effet d'apprendre le métier en l'exerçant sur le terrain.
Le porte-parole des récipiendaires, au nom de ses pairs, a manifesté la détermination à relever tous les défis. Beaucoup Jean-Yves.
Après avoir obtenu nos diplômes, nous nous sentons confiants et prêts à relever de nouveaux défis. Cette formation nous a non seulement doté de connaissances techniques, mais elle nous a également donné la confiance nécessaire pour avancer avec détermination dans nos carrières. Nous sommes prêts à servir la nation.
La formation théorique de la première promotion a duré 9 mois. La deuxième cohorte de 250 jeunes est pour bientôt. Et sur 3 ans, c'est 600 jeunes qui bénéficieront de cette aubaine.
Une autre cérémonie de remise de diplôme, mais cette fois à des militaires. Après 10 mois de formation à l'Académie des Forces Armées de Zambakro, dans la localité de Yamoussoukro, 22 militaires de plus d'une dizaine de nationalités ont reçu des mains du ministre ivoirien de la Défense, Thierry Biraïma Ouattara, leur diplôme de l'enseignement militaire supérieur de deuxième niveau et un insigne brevet. Témoin pour Radio de la Paix, Émilie Yao.
Évoquant les diplômes obtenus, le directeur du CESD, Cours d'études supérieures de défense de Zambakro, le capitaine de verso Dadier Mondésir, a fait cette adresse aux 22 récipiendaires, dont 6 officiers ivoiriens, 15 de pays africains et un européen.
Ces symboles seront le sésame de votre entrée dans le monde très élitiste des officiers à haut potentiel. En effet, pendant ces 10 mois, vous avez été soumis à un enseignement qui prend en compte les caractéristiques d'un environnement géostratégique international qualifié de VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu.
Le ministre de la Défense, Thierry Biraïma Ouattara, a entre autres remercié et félicité les uns et les autres pour les efforts fournis, non sans se réjouir de la confiance placée en la Côte d'Ivoire.
La présence de la douzaine de nationalités dans cette promotion confère au CESD un véritable statut de pôle d'intégration et de coopération régionale. Nous nous réjouissons de cette confiance et les assurons que le gouvernement ivoirien mettra tout en œuvre pour délivrer un enseignement de qualité.
Poursuivant, Thierry Biraïma Ouattara a exprimé sa satisfaction à la hiérarchie militaire ainsi qu'aux responsables du CESD.
Au vu des résultats proclamés aujourd'hui, je voudrais exprimer toute ma satisfaction pour l'excellent travail abattu.
Ouvert le 30 septembre 2019, le CESD a à ce jour formé 99 brevetés, au nom desquels 48 Ivoiriens, 50 Africains et un Européen. Émile Yao, depuis Zambakro, Radio de la Paix.
Et puis, la réalisation des projets gouvernementaux dépend du financement du ministère des Finances et du budget. Et pour plus de confiance des bailleurs de fonds, ce ministère vient de renforcer les capacités des coordinateurs et gestionnaire du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS, en vigueur depuis 2019. Là-dessus, écoutons sa coordinatrice, Madeleine Yao.
Le ministère des Finances et du Budget est le principal acteur chargé de la relation financière avec les projets. Et donc c'est le ministre qui est l'administrateur. Par conséquent, toutes les performances des projets dépendent de lui. Et c'est son intérêt qu'il y ait une mobilisation forte de ses ressources pour pouvoir attirer la sympathie des bailleurs de fonds, de telle sorte qu'ils puissent accroître les ressources qu'ils allouent au gouvernement pour financer les projets. D'où l'idée de capitaliser sur ce principe. Et comme le PAGDS est un projet de gouvernance qui a pour objectif d'améliorer les aptitudes du gouvernement, des acteurs, des institutions publiques dans leur domaine d'activité, nous avons choisi le renforcement des capacités pour donner à ce ministre qui a la tutelle des projets les outils pour améliorer les performances. Dans les indicateurs d'allocation des ressources, le niveau de ressources allouées à un gouvernement dépend de sa capacité d'absorption. Plus vous êtes performant, plus vous recevez des ressources. Ça a été le cas pour le portefeuille de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 000 milliards de ressources disponibles parce que nous sommes performants. Mais il faut toujours faire plus parce que les défis sont nombreux.
Madeleine Yao, coordinatrice du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS. Le président américain Joe Biden, recevant hier à Washington le premier ministre israélien, lui a demandé de travailler à conclure rapidement un cessez-le-feu au 10e mois de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas. C'est ce qu'a également estimé la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui s'est aussi entretenue ce jeudi avec Benjamin Netanyahu, qui doit par ailleurs échanger ce vendredi en Floride avec l'ancien président Donald Trump et candidat des Républicains pour l'élection présidentielle américaine le 5 novembre prochain. La police sud-africaine a annoncé pour sa part ce vendredi l'arrestation de 95 Libyens après un raid dans une ferme qui semble avoir été utilisée comme camp militaire. Le site était présenté comme un camp d'entraînement pour une société de sécurité, mais à première vue, il s'agit d'une base militaire, a déclaré le porte-parole de la police, Donald Mouli, rapporte l'agence France Presse. Sport à présent, démarré mercredi, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France a lieu ce vendredi et la Côte d'Ivoire y présente 13 athlètes répartis dans 3 disciplines sportives, l'athlétisme, les arts martiaux et l'escrime. Et César Yao nous parle des chances de médailles ivoiriennes.
Au taekwondo, Cissé Cheikh Sala Junior n'a que l'or et un deuxième sacre à l'esprit pour ce rendez-vous parisien. Le natif de Boaké est le grand favori de la catégorie des plus de 87 kg. L'autre espoir de médaille est Ruth Bagby, couverte de bronze à Rio en 2016 puis à Tokyo en 2020. Ruth Bagby veut réussir la passe de 3 sur le podium. En athlétisme, la Côte d'Ivoire rêve avec Marie José Talou Smith, la pouliche de John Smith est capable d'accrocher une place sur le podium à 35 ans. À côté de ces athlètes, plusieurs autres peuvent réaliser de grosses surprises. Jessica Gbaï, championne d'Afrique 2024, tentera un grand coup à Paris. Zuleya Dabone, présente pour la 3e fois aux JO, rêve du podium. Il en va de même pour les fleuristes Maxime Isabelle Stéman et Jérémy Fafa Kerruel. La jeune Estan Batilly aura également son mot à dire. Jérémy Fafa Kerruel et Zuleya Dabone entreront en lice le 29 juillet 2024.
Et place à présent à notre invité de la rédaction, le président de la CIED, en train de parler. La concertation était partie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Il parle du plaidoyer qu'entreprend cette plateforme en faveur des personnes vulnérables en vue des élections présidentielles de 2025. Blépierre Norlander répond à cet effet aux questions de Junior Cardin.
Bonjour, Monsieur le Président de la CIED, Blé Norlandais.
Oui. Bonjour.
On apprend que la CIED fait un plaidoyer en faveur des personnes vulnérables, femmes, enfants et handicapés, en lien donc avec les élections de 2025. Qu'est-ce qui justifie ce plaidoyer?
Ce qui justifie ce plaidoyer, c'est que j'ai fait une tournée dans plusieurs régions pour m'acquérir un peu de comment est-ce que nous devions faire pour amener nos populations à s'intéresser aux élections et faire en sorte que ces élections soient apaisées. Alors, j'ai été dans des régions où j'ai trouvé des femmes qui ont vraiment parlé de leur situation. Souvent, ils ne retrouvaient pas des bureaux. Souvent, ils ne savent pas où aller voter. Ils ne sont pas informés. Bon, donc j'ai écouté les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Je précise, à Gagnoua, par exemple, où j'ai croisé des personnes vivant avec un handicap, où ils m'ont dit, quand il y a des élections, les gens nous frustrent. On n'arrive pas à aller voter, on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à faire ça. Des fois, les gens mettent nos urnes dans des coins élevés et donc nous avons des problèmes. Alors, nous voulons des élections inclusives, faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes mises à l'écart. Et donc, à mon retour, j'ai essayé de faire en sorte que nous puissions nous mettre en phase avec leurs demandes et faire le plaidoyer.
D'accord. Du côté des handicapés, on peut comprendre quelque chose, mais les femmes et les jeunes, quel est leur problème?
Les femmes et les jeunes, il y a beaucoup de femmes, d'abord au sein des partis, qui disent que nous, on veut être candidats, mais on a peur de ce que les hommes vont nous dire. Bon, j'ai dit au moins, si vous n'êtes pas candidat, soyez électrice ou membre du bureau de vote, afin que vous puissiez observer aussi pour les candidats. Elles ont dit, oui, on veut faire tout ça, mais on n'est pas encouragé parce que les hommes nous fatiguent. Et les partis politiques ne nous font pas confiance, ils disent qu'on ne peut pas agir. Donc dans ce cas, nous devons mener des actions pour les sensibiliser à être dans les bureaux de vote et à être électrices elles-mêmes. Et donc, les sensibiliser, renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent représenter un candidat dans un bureau de vote ou alors même être elles-mêmes électrices ou bien candidates. Donc, pour ce faire, nous devons sensibiliser non seulement les autorités, mais aussi les partis politiques eux-mêmes. Parce que c'est dans ces partis-là, sont les femmes qui se plaignent, à part celles qui ne savent pas où aller voter.
Mais M. Blé, oui, dans les partis politiques, ce sujet revient régulièrement. Et dans les partis politiques, on entend dire que l'action politique est un engagement personnel. À ce niveau, qu'est-ce que vous dites aux femmes?
Non, l'action politique est un engagement personnel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut sensibiliser les femmes, renforcer leurs capacités pour cet engagement-là et accroître le nombre des femmes sur les listes électorales pour que cet engagement aille à son terme. Parce que si elles ne savent pas quoi faire, elles ne sont pas sensibilisées et n'ont pas les capacités requises pour être dans des bureaux de vote ou bien pour représenter leur parti, mais il faut bien que nous le fassions pour leur dire non, ça ce n'est pas la taille des hommes, tout le monde peut le faire. Donc, recensez-vous pour qu'on vous forme, par exemple, à une observation, à un renforcement de capacités pour être dans les bureaux de vote et suivre le scrutin comme les représentants hommes le font. Je pense que les partis peuvent quand même faire un planning dans ce sens-là.
Mais donc, le plaidoyer, en quoi il consiste réellement?
Non, il consiste à amener beaucoup de femmes, à renforcer leurs capacités, à les amener à avoir la qualité d'électrice dans les CEL, par exemple, ou bien des membres de bureaux de vote ou des observatrices ou des représentants des partis politiques
et
des
candidats. Et à qui est adressé ce plaidoyer?
Ce plaidoyer est particulièrement adressé aux partis politiques et même au gouvernement, parce que nous voulons quand même que les gens soient appliqués dans ce que nous faisons dans le cadre des élections, mais c'est surtout aux partis politiques, pour qu'on ait quand même une représentativité des femmes assez nourrie.
Et quand les personnes handicapées vous disent qu'elles ont souvent des difficultés pour accéder au bureau ou au lieu de vote, qu'est-ce que vous faites comme plaidoyer à ce niveau?
À ce niveau, je voudrais qu'on facilite les procédures pour que ces personnes-là, avec handicap, puissent accéder au bureau de vote. Faire en sorte qu'ils soient recensés sur un listing. Je prends un exemple pratique. On dit, bon, à Bobo, nous avons 200 personnes vivant avec handicap. Alors, dans ce lieu de vote, ou bien dans ce bureau de vote, on aura au moins 10. Mais faire en sorte que ces messieurs-là viennent voter aisément. Mais on ne mettra pas le bureau de vote des personnes à mobilité réduite dans une élévation ou bien dans un bureau où il y a des escaliers à prendre.
Donc, à ce niveau, vous adressez à la CEI?
Je m'adresse à la CEI. Ça, à ce niveau, c'est la CEI qui organise les élections. Donc, je voudrais qu'elle vraiment tienne compte de ces handicapés-là pour que ces personnes à handicap puissent venir voter aisément et repartir aisément chez eux. Parce que ce sont des personnes qui comptent aussi pour la société. Ce sont des personnes qui sont enregistrées. Ils ont leur carte d'électeur. Il faut bien qu'ils puissent voter. Et ils se plaignent vraiment pour ça.
Blé Lorander, merci beaucoup à vous.
Merci, merci à vous.
Voilà, à l'instant, le président de la CIED, la concertation interpartie pour les élections démocratiques en Côte d'Ivoire, Blé-Pierre Lorlandais, répondant à Julio Cardin, c'est ce qui met fin à ce bulletin, le rappel de ses titres. Agame Village, quartier dans la commune d'Agame, sur le pied de guerre face à son déguerpissement, mais l'opération s'y poursuit quand même. Insertion professionnelle, près de 200 jeunes auparavant sans emploi ou mal insérés, désormais aptes au métier du bâtiment et des travaux publics. Ils ont leur certificat de qualification professionnelle. Ils l'ont obtenu hier en présence du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que de celui de la construction, de l'urbanisme et du logement. Guerre Israël-Hamas, espoir de cesser le feu à Gaza avec la visite du premier ministre israélien en ce moment aux États-Unis. Et à présent, la revue de presse de ce vendredi avec Mel Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les journaux ivoiriens reviennent pour la plupart sur les événements qu'a connu la commune d'Adjamé hier. Une opération de déguerpissement du district autonome d'Abidjan dans le village d'Adjamé.